Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de notre podcast sur l'intercompréhension entre les langues romanes. Dans cette deuxième partie, on vous expliquera où et comment se former à cette pratique de communication. Si moi je souhaite me former à l'intercompréhension, où est-ce qu'il est possible de le faire ?
Alors, on va procéder sur le plan géographique ici, disons là où nous sommes à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Quand on est étudiant, il y a différents cours d'intercompréhension. On a réussi à insérer dans les cursus des cours. Alors, par exemple, en licence de langue au département LLCER sur le campus de Jacob, dans un master FLE, français langues étrangères, dans un master LEA aussi, il y a un cours d'intercompréhension. Ce sont à chaque fois des cours qui se déroulent sur les deux semestres, semestre pair et impair. Sur le campus du Bourget où nous sommes, il y a aussi un cours d'intercompréhension pour les étudiants d'école d'ingénieurs, de Polytech. Et on prévoit en fait la création d'un cours sur le troisième campus de notre université à Annecy pour la prochaine rentrée 2022. Ça, c'est une première option. La deuxième option, en fait, c'est de suivre les cours qui sont proposés par UNITA, à laquelle nous participons, qui sont en fait des cours avec des formats mixtes, ça peut être présentiel, distanciel, ou simplement des formats distanciels, qui sont des cours d'initiation pour les étudiants ou pour les personnels. Et voilà, ça peut être des cours spécifiques pour des enseignants, ou bien des cours pour le personnel administratif. Voilà en fait le déploiement du processus didactique. Et donc, selon son profil, on va dire, voilà tout ce que l'université UNITA peut proposer.
Et comment se passent ces cours ? Est-ce que l'accent est mis plutôt sur le travail à l'oral ou à l'écrit ?
Alors, commencer par l'écrit est toujours plus simple dans une démarche d'intercompréhension, puisqu'on a le support écrit, on a le temps de la réflexion, on a la possibilité de relire un document. Donc, en général, l'écrit a une part plus importante dans les premiers cours, mais l'oral est toujours présent et en général, les formateurs en intercompréhension ne parlent pas qu'une langue en cours. Quand ils le peuvent, ils parlent plusieurs langues, selon les langues qu'ils connaissent, pour mettre d'emblée les étudiants dans une situation d'intercompréhension. Et c'est très beau à voir. Moi, j'ai assisté à des cours comme ça, puisque finalement, en me mettant à la place d'étudiant, on s'aperçoit qu'on arrive à comprendre des langues étrangères qu'on ne connaît pas à partir du moment où l'enseignant en fait un effort justement pour s'exprimer lentement et avec des termes qui sont transparents. Et donc, la dimension orale est toujours présente. Par contre, dans le déroulé pédagogique, voilà, les premiers temps sont plutôt consacrés à l'écrit.
Selon vous, combien de temps faut-il en moyenne pour se former à l'intercompréhension ?
Alors, tout dépend de son but, du but recherché et de son profil. Alors, avec des formations courtes, ne serait-ce que de 10-20 heures, on arrive à acquérir en fait les clés stratégiques pour faciliter en fait son apprentissage dans la pratique de l'intercompréhension. Par contre, c'est un processus long et je dirais infini comme l'apprentissage d'une langue. C'est pour toute une vie. Donc, autant une formation courte va donner des clés indispensables, à mon avis très utiles, pour mieux comprendre l'autre. Mais j'ajouterais aussi pour mieux s'exprimer. Parce que l'intercompréhension, ce n'est pas simplement comprendre l'autre, mais c'est aussi adapter sa langue à l'autre. Donc si moi je suis dans un schéma d'intercompréhension, je parle par exemple à un Allemand ou un Espagnol et je parle français, je vais choisir mes termes en fait, justement pour être le plus compréhensible possible. Donc il y a aussi un travail qui est fait sur la production dans ma langue maternelle, mais dans un schéma d'intercompréhension. Et par contre, pour bien comprendre l'autre, si par exemple je veux travailler dans l'ère romane, il est clair que c'est un processus continu et que plus je m'immergerai dans les langues romanes, eh bien, mieux je comprendrai. Voilà. Mais ça suppose quand même un temps fort pour être très à l'aise. Imaginons que je veuille dialoguer avec un Espagnol. Je ne sais pas forcément bien parler l'espagnol, par contre je veux très bien le comprendre. C'est sûr que ça nécessite un certain temps. Hein. Mais par contre, ce qui est intéressant, je vais ajouter une dimension qu'on n'a pas encore évoquée, mais c'est que l'intercompréhension, c'est une démarche plurilingue, multilingue, au sens où en général, elle se développe à travers une famille de langues. Et donc, UNITA est fondée sur l'intercompréhension en langue romane. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, en travaillant les langues toutes ensemble, il y a un processus de compétences exponentielles. Donc, en améliorant mes compétences de compréhension en espagnol, je vais améliorer du coup mes compétences de compréhension en italien. Et donc, voilà, je dirais, c'est comme l'apprentissage d'une langue, c'est un processus continu sur toute une vie, mais on peut assez rapidement, en fait, être dans un schéma d'intercompréhension et avoir pouvoir comprendre en fait le locuteur qui parle dans une langue étrangère. Et c'est là la grande différence avec un schéma d'apprentissage classique.
Si nous n'avons pas accès aux cours, est-il possible de se former et de maîtriser l'intercompréhension en autonomie?
Alors, je pense que c'est possible, mais ça reste difficile. Disons, ça supposerait que, comme l'intercompréhension est avant tout plurilingue, disons, ça supposerait un investissement assez fort, disons, de la personne pour travailler toutes ces langues. Et ça reste possible. Et je pense que dans ce type de discipline-là, l'avantage d'être en groupe et avec un formateur, c'est que ça, je pense, ça accélère vraiment le processus d'apprentissage pour plusieurs raisons. Une, c'est que le formateur va choisir en fait les documents en langue étrangère adaptés au niveau de compréhension de l'apprenant. Parce que c'est aussi une grande difficulté. Voilà, par exemple, moi je m'intéresse un peu à l'espagnol parce que justement je ne le parle pas. Mais si je choisis mal mes documents, je peux être vite désabusé ou dégoûté parce que mes documents sont trop difficiles. Donc ça peut être aussi assez démotivant. Donc l'enseignant sait choisir les documents et faire progresser l'étudiant. Et puis ce qu'offrent aussi les formateurs, c'est en général la mise en contact avec d'autres étudiants. Par exemple, dans les différents cours qui ont eu lieu ici sur notre campus, en tout cas pour certains de ces cours, les étudiants ont été mis en contact avec d'autres étudiants européens d'UNITA. Et donc ils ont pu travailler ou à l'écrit ou à l'oral, sur le mode de l'intercompréhension avec d'autres étudiants. Voilà, ce qui est difficile à faire quand on est en autonomie, parce que ça supposerait de connaître des personnes, ou espagnoles ou italiennes, voilà, qui sont dans la même démarche, avec qui dialoguer. Voilà ce qu'offre la formation, disons un cadre didactique, et aussi une mise en contact plus directe avec les locuteurs étrangers.
L'intercompréhension remplace-t-elle l'apprentissage communicatif d'une langue étrangère ?
Alors, je vais dire oui et non. Alors, d'abord non, elle ne remplace pas l'apprentissage traditionnel, classique, puisque dans l'apprentissage traditionnel, classique, disons, on travaille aussi la production. Donc, si j'ai envie d'apprendre, par exemple, à parler l'espagnol et à écrire l'espagnol, le cours d'intercompréhension ne suffira pas, même si j'en fais beaucoup. Par contre, c'est clair que ça va m'aider énormément. Donc non, ça vient compléter le cours ou bien ça vient aider, accélérer en fait un cours d'apprentissage classique. En revanche, si on est dans un schéma européen où l'intercompréhension est développée à large échelle, on peut penser effectivement que l'intercompréhension pourrait, dans une certaine mesure, se suffire à elle-même. Puisque si moi, en tant qu'apprenant français, j'ai suivi une formation à l'intercompréhension et je dialogue avec des Européens qui ont eux aussi suivi une formation à l'intercompréhension, qui leur permettent de comprendre le français, du coup, c'est un schéma théorique, mais on pourrait se passer aussi d'un apprentissage traditionnel. C'est un schéma théorique, mais c'est juste pour dire que y a un modèle possible qui est justement ce modèle de communication à travers la compréhension. Et par exemple, un grand intellectuel italien comme Umberto Eco disait justement que l'idée d'une Europe faite de polyglottes, de gens qui parlent plusieurs langues avec aisance, est une utopie. On n'a pas le temps dans une vie, avec tous les impératifs qui pèsent sur nos épaules, d'apprendre, enfin c'est rares sont les personnes qui parlent plusieurs langues correctement. En revanche, le schéma de l'intercompréhension semble beaucoup plus réaliste. C'est pour ça qu'à la question est-ce que l'intercompréhension remplace un apprentissage traditionnel, je dirais avant non, ça c'est la première réponse, mais on peut envisager des schémas de communication différents où il n'y ait pas forcément autant besoin que ça d'un apprentissage traditionnel. Mais là, on parle d'une situation future que moi, je souhaite de tous mes voeux parce que voilà, je pense qu'il y a un trésor à exploiter ici.
Est-ce qu'il est possible d'appliquer la méthode d'intercompréhension pour les langues aux racines différentes?
Alors oui, on peut très bien... par exemple, on peut très bien envisager des formations entre francophones et langues germaniques, par exemple, et faire un apprentissage autour de ces deux langues qui ont des racines assez différentes. Donc ça, c'est largement possible. Il est vrai que traditionnellement, l'intercompréhension, voilà, s'est développée autour d'une famille de langues. Elle naît en fait d'une attention, voilà, de cette attention aux familles de langues et aux points communs qu'il y a entre les différentes langues d'une même famille.
Merci beaucoup Fabrice, vous avez éclairé beaucoup d'aspects de cette méthode linguistique et à bientôt dans d'autres épisodes du podcast UNITA.